Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sans Titre, enregistré au Centre Pompidou. Pour cette nouvelle émission, nous recevons aujourd'hui l'artiste peintre Olivier Masmonteil. Bonne écoute. Oui, alors je vais commencer par te présenter Olivier rapidement. Donc tu es artiste peintre, pêcheur et voyageur, ça je l'ai beaucoup lu dans tes différentes interviews et bio. Depuis 2008, ton travail s'articule en plusieurs séries dont on peut extraire quelques thèmes récurrents comme la lumière, l'horizon, le temps, la transmission. On trouve ainsi des séries en extérieur, assez contemplatives, dominées par le paysage, et d'autres plus narratives, parfois en intérieur, manipulant et empruntant des codes directs de l'histoire de l'art, jouant avec la superposition de différents langages visuels. Voilà, rapidement. Donc, peinture à l'huile, majoritairement.
Ouais. J'ai d'autres supports, mais c'est vrai que la peinture à l'huile a été mon support de prédilection, mais il y a aussi aquarelle, fusain, pastel, beaucoup en ce moment, qui revient, et les différentes techniques se nourrissent les unes les autres.
D'accord. Alors, peut-être on va commencer par revenir sur ta formation, et surtout avec une question qui est-ce que c'était un choix directement de devenir artiste? Comment ça s'est construit quand on rentre aux Beaux-Arts? Parce que notamment j'ai cru comprendre à travers ce que j'ai pu lire sur toi que c'est un choix qui s'est construit un peu en opposition avec ta famille, avec tes parents, donc c'est pas un truc spontanément naturel, enfin en tout cas...
Effectivement. En fait, moi, j'ai grandi à Brive-la-Gaillarde. Mon père est notaire, mon grand-père était notaire, mon arrière-grand-père était notaire, donc je devais être notaire. Ouais. Donc c'était une sorte d'évidence.
De dynastie familiale.
Voilà. Alors, comment est né un peu le désir? Moi, j'ai toujours aimé dessiner. Ça, c'était une constante dès la maternelle. C'était vraiment quelque chose que j'aimais pratiquer. Et puis, quand j'avais 10-12 ans, il y a toujours des modes dans les écoles. Et nous, les modes, c'était la BD. Et on avait tous nos personnages de BD, on faisait des planches de BD. Et à Brive, il y a la foire du livre de Brive, et avec un copain, on a 14 ans, on a fait nos planches, on a nos personnages, et on va montrer ça à des auteurs, et notamment à Franck Margerin, qui fait Banane Métallique. Et il me donne un seul conseil, et qui a été un super conseil, c'est il regarde mes planches et il dit « Alors, avant de copier les autres personnages de BD, il faut que tu apprennes à dessiner. Donc, apprends le dessin, et puis tu verras que tu développeras ta propre écriture et tout ça. Mais tu dois apprendre le dessin de façon un peu classique, académique. » Et il se trouve qu'à Brive, il y avait une petite académie des Beaux-Arts qui était tenue par quelqu'un qui s'appelait Jacques-Gabriel Chevalier, et qui avait été formé aux Beaux-Arts avant la réforme de 68. Et les cours qu'il donnait, c'était les cours qu'il y avait aux Beaux-Arts avant la réforme de 68. Oui. C'est-à-dire copie de plate, copie de tableau, études documentaires. Moi, je me suis inscrit d'abord pour 2 heures. Au bout d'un mois, j'y étais pour 4 heures, puis après pour 6 heures. Et après, j'étais inscrit sur tout le cursus des cours du soir. Et pendant 5 ans avec lui, j'ai fait copie de plâtre académique, copie de tableau, études documentaires, un peu d'histoire de l'art. Et pour moi, c'était une évidence. Je voulais être peintre. Ce à quoi mon père m'a dit, écoute, tu seras notaire la semaine, peintre le week-end. Et moi, je lui ai dit, bah non, parce que le week-end, je pêche, donc je vais pêcher à la mouche. Donc non, j'ai déjà une occupation de prise, donc je serai peintre. Et donc, ça a été un peu ma première opposition. Ça a été une opposition familiale qui pensait que artiste, c'était pas un vrai métier. Je pense que c'est pas anodin non plus, parce que c'est quelque chose qui va ressortir tout au long de mon parcours. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand on fait un micro-trottoir dans la rue, artiste pour quelqu'un, c'est un peu quelqu'un qui vit d'amour et d'eau fraîche.
Ouais, c'est un peu flou, c'est pas un métier en tout cas.
C'est pas un métier. Et ça va un peu me motiver aussi pour la suite, pour cette idée de métier, de professionnalisation et tout ça. Et donc, moi, je veux faire les Beaux-Arts. Une fois que j'ai mon bac en poche, mon père me fait faire du droit. Donc, je me tape 2 ans de droit, enfin, 2 fois la première année, que je saborde royalement. Parce que j'allais même pas en cours. Moi, j'étais en droit à Limoges. Donc, j'allais au musée Adrien Duboucher. J'allais continuer à copier les plats, des choses comme ça. Et je constituais mon dossier pour les Beaux-Arts. Je passe Toulouse et Bordeaux, et j'ai Bordeaux. Et une fois que j'arrive à Bordeaux, je me dis, chouette, ça y est.
Ça démarre.
Et en fait, grosse déception, on m'explique que, ah non, vous vous êtes trompé d'endroit, ici on fait plus de peinture. Donc, j'ai une famille qui veut pas que je sois artiste et j'ai une institution qui veut pas que je sois peintre. Donc, il va falloir que je forge un peu mon caractère pour dire, non, alors j'ai eu suffisamment de mal pour entrer dans cette école, donc moi je vais faire de la peinture. Et on est dans ce moment où, en France particulièrement, la peinture est vraiment mise de côté. C'est-à-dire qu'on est considéré comme, on va dire, peintre de Montmartre un peu. Hein. C'est vraiment une sorte de caricature. On a une palette, un béret et des sabots. Hein. Limite, c'est l'image qu'on renvoie de nous. Et en plus, j'aime bien le rappeler parce qu'aujourd'hui, on mesure moins l'impact que ça, mais il n'y avait pas Internet encore en 95. Donc, on n'avait pas cet accès aussi facile à savoir ce qui se passait aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Un des livres qui va marquer beaucoup ma génération, c'est les éditions Taschen, et notamment l'art contemporain de Taschen, où on va découvrir qu'effectivement, il y a toute une scène allemande, italienne, américaine. Et il y a un petit truc aussi, alors je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais sur Canal+, Philippe Gildas et Guillaume Durand avaient fait une émission qui s'appelait « L'art contemporain est-il bidon ?». Ils avaient fait une émission d'une heure et on l'avait enregistrée avec des copains et on se l'a passé en boucle parce que dedans, Guillaume Durand raconte la trans-avant-garde italienne, l'expressionnisme allemand. On voit des vidéos, on voit Basquiat, Kenny Scharf à New York, on voit Baselitz peindre, on voit des sculptures d'Anish Kapoor. Et tout d'un coup, on se dit « Ah oui, non mais c'est ça la création ». Et donc, moi, je vais arriver aux Beaux-Arts en disant « Non, non, il y a des peintres qui existent encore aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison. » Et je vais m'affronter vraiment directement avec les professeurs et l'école pendant 5 ans. Ouais. En 5e année, je vais être délégué des élèves. Et quand on est délégué des élèves de 5e année, on est délégué responsable des 5 années. Donc, je vais un peu me frotter à la direction. Et ce que je vais faire aussi à partir de la 3e année, c'est que je vais donner des cours de dessin à tous les étudiants. D'accord. Parce que beaucoup ont envie d'apprendre les rudiments du dessin et ne savent pas. Et les professeurs sont incapables de transmettre ça. Donc, je vais aller à la cave. Je vais aller chercher les plâtres qui étaient rangés à la cave. Donc là, il va y avoir un nouvel affrontement avec les professeurs qui me voient comme étant un réactionnaire de droite, parce qu'en fait, il y a aussi cette idéologie-là, et je vais la comprendre parce qu'un de mes professeurs va un peu se confier à moi et va m'expliquer que la plupart des professeurs de l'école, en fait, sont issus des mouvements de 68. Ouais. Et le prof de volume, c'est le responsable de la cellule trotskiste en 68. Le prof de couleur, c'est la cellule Mao. Et du coup, qu'est-ce qui incarne... Enfin, contre quoi ils se battent, c'est contre la bourgeoisie. Et qu'est-ce qui incarne l'art bourgeois, c'est le tableau. Et donc, ils ont jeté la peinture avec le tableau. C'est un peu... Enfin, je résume court, mais c'est un peu l'idée générale. Donc... je vais comprendre que je suis dans un affrontement idéologique, alors que moi, j'arrive naïvement de Corrèze et je veux juste peindre. Et je vais comprendre que dans cet affrontement, il va y avoir aussi l'institution après, parce que les fracs sont aussi dans cette logique-là. Beaucoup d'institutions et de musées sont dans cette logique. Donc, on va se retrouver peintre un peu mis de côté, blacklisté. Et je vais être diplômé en 99. Et en 99, quand tu es diplômé des Beaux-Arts, tu sais rien faire, quoi. Tu sais pas faire une facture, tu sais pas faire un dossier, tu sais pas par quel bout le prendre, parce que, en fait, et c'est toujours vrai aujourd'hui, à l'école des Beaux-Arts, on te forme pour avoir ton diplôme. On te forme pas pour être artiste. Donc on oublie un grand pan. Donc ce qui se passe, c'est que pour beaucoup d'étudiants, ils ont le diplôme, ils sont super contents, et un mois plus tard, ils se disent, mais je fais quoi avec?
Comment je vis?
Exactement. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des rencontres d'artistes plus âgés qui m'ont conseillé, qui m'ont dit « Attention, après, ça va être plus compliqué. » Et ça m'a permis un peu de réfléchir un peu plus à l'après-Beaux-Arts. Et pendant les 3 ans qui ont suivi, je vais enchaîner des petits boulots. Je vais essayer de constituer un travail qui est montrable. Parce que même si j'ai passé 5 ans à peindre, les choses ne sont pas encore, pour moi, satisfaisantes. Et dans les rencontres importantes qu'il va y avoir dans les années qui vont suivre, il va y avoir d'un côté Gérard Garouste et de l'autre Suzanne Taraziev. Donc moi, je monte à Paris après des petits boulots en province.
Des boulots strictement alimentaires, quoi. C'est vraiment...
Alors, je vais être régisseur dans un centre d'art dans le Lot pendant 1 an. Là, ça va être pas mal parce que c'est là où je vais rencontrer des artistes. Je vais participer à une exposition de Bernard Venet. Donc, pendant 1 semaine, je suis en train de faire un wall drawing avec lui. Donc, je vais le bombarder de questions. Il va vite me trouver insupportable, mais en même temps sympathique. Donc lui, il va me donner des conseils, et notamment un qui va être très bon. À la fin, il me dit, écoute, tu me fais chier. Je vais te dire un truc, c'est le truc le plus important que personne ne te dira jamais. Ce que tu vas gérer, c'est une carrière. Donc pense à ce qui va se passer après comme une carrière, et ça va durer 50 ans. Donc il faut que tu te mettes dans cette logique-là. Je vais rencontrer Alechinski aussi, qui va faire une exposition. Il va me dire, pareil, c'est le temps long qui va être important. Donc je lui montre mes peintures. Il me dit, c'est intéressant, il y a des bons trucs, c'est pas encore prêt. Il faut que tu continues à travailler, il faut que tu abandonnes tes influences, il faut que tu les dépasses, etc., etc. Après cette expérience d'un an dans un centre d'art, je m'aperçois que la France étant très centralisée, si je monte pas à Paris, il va rien se passer. Donc, je monte à la capitale, mais vraiment truc. Et là, je vais bosser pendant un an comme vendeur d'aspirateurs à Conforama Pont-Neuf. Là, je vais avoir un rejet encore plus fort de mes parents, parce que eux, ils projetaient notaire et ils me retrouvent vendeur.
Il y a toute une précarité qu'ils n'avaient pas prévue pour toi. Quand.
Exactement. Ah. Et là, c'est le moment difficile et le moment où bah, il faut commencer à avoir une force de caractère, parce que on se dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis pas en train de me tromper?
Parce là, a... on est où? On est 5 ans à peu près après les.
On est 2 ans après. Je suis un 99. Je vais faire Kajar 99-2000 et après 2000-2001 Conforama. Et après, en même temps que j'essaye de continuer à peindre, donc j'ai installé un atelier dans une grange en Corrèze, donc je fais les allers-retours entre Paris, enfin bon, un peu la grande précarité, puis on bidouille un peu comme on peut. Je vais aller voir Suzanne Taraziev, qui à l'époque est encore à Barbizon, parce que Suzanne, à l'époque, bah, elle montre Baselitz, elle montre Barcelo, elle montre Kirkeby, moi c'est Lupert, donc c'est un peu tous les peintres que j'aime bien. Et elle va me recevoir, hyper sympa. Pareil, elle va me dire, il faut que tu ailles un peu plus loin que ces influences-là. Donc, mais ça m'intéresse, reviens dans 6 mois. Moi, je veux être tenu informé de ce que tu fais. Et au même moment, je vais présenter des dossiers pour faire des résidences, et notamment Gérard Garousse, qui a monté, il a monté en 95, mais La Source, qui est en Normandie. Et il va me proposer de faire une résidence de 3 mois à La Source.
D'accord.
Et donc, je vais démissionner de Conforama pour pouvoir aller faire ma résidence à La Source. Et puis, en même temps, je vais avoir Suzanne qui jette un œil sur mon travail.
Ouais.
Donc là, pour une première fois après l'école, je retrouve un atelier avec du temps pour peindre. Donc là, je vais passer mes journées entières à ne faire que ça. Essayer d'être satisfait, d'avoir une série un peu complète à montrer. Et en même temps, il y avait toute une série de concours, et notamment, il y avait le prix de la COFIM, qui était un prix qui pourrait être équivalent à Emmerich aujourd'hui, qui avait lieu rue de Sévigné. Et pareil, c'était un promoteur immobilier qui avait fait un prix peinture-sculpture. Et je vais avoir le prix qui va confirmer Suzanne dans l'idée de travailler avec moi. Il se trouve que dans le jury, il y a Olivier Sénat qui me fait tout de suite un article dans Télérama. Donc, il va y avoir une première chose. Et Gérard Garouste qui vient me voir à La Source et qui me dit, écoute, moi, ton travail, j'y crois.
Ouais.
Donc, ce que je te propose, c'est que tu restes là le temps que tu veux. Ça se passe bien avec les enfants, parce que le deal de la résidence à La Source, c'est qu'on a un atelier, un logement, mais en échange, on s'occupe des enfants le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. Et je vais rester 3 ans à La Source.
D'accord.
En même temps que je prépare mon exposition pour Suzanne, qui, elle, déménage de Barbizon pour s'installer rue Louise Weiss. Et la rue Louise Weiss, en 2001, c'est un peu l'épicentre de l'art en France. Dans la rue, il y a Almin Resch, Perrotin, Art Concept, Jousse. Toutes les galeries sont installées là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un programme du ministère de l'Industrie avec Jacques Toubon, qui avait décidé que tous les pas de porte de la rue Louise Weiss, alors je ne sais plus quelles étaient les conditions, mais pour que des galeries s'installent, il n'y avait pas de loyer pendant 5 ans ou un truc comme ça.
D'accord.
Et ça a permis à énormément de jeunes galeries de s'installer.
D'éclore ici.
Ouais, et les vernissages rue Louise Weiss, c'était absolument génial, parce que c'était un moment où tout le monde savait qu'ils allaient pouvoir rencontrer des artistes, des choses comme ça. Donc il y avait une vraie émulation dans ce lieu, en sachant que la rue Louise Weiss était quand même assez identifiée, on va dire, art contemporain, dans tout ce qu'on peut avoir comme installation, vidéo, performance, et pas trop de peinture. Et Suzanne décide de s'installer là. Suzanne, elle arrive de Barbizon, elle présente de la peinture. On la regarde
C'est déjà un petit décalage avec l'air ambiant.
Ouais, il y a un petit décalage. Quand on est en train de... Parce que je lui file un coup de main pour l'accrochage de la première expo et tout ça, mais la première personne qui vient, c'est Emmanuel Perrotin qui lui dit « C'est génial que tu arrives là, tu arrives avec ta peinture, on a besoin de ça, ça donne un peu de l'énergie à la rue. Comme ça, on n'est pas que dans notre façon de... Enfin, notre esthétique. Donc, j'avais trouvé ça assez chouette. » Mais on se prépare quand même à faire une première exposition de peinture. On met les casques parce qu'on se dit peinture, comment cette exposition, cette première exposition va être reçue. Et il se trouve qu'au même moment, la galerie Art Concept va montrer Anor Sacrist, qui montre une expo de peinture. Jocelyn Wolf, qui est dans le quartier Belleville, lui va montrer Grégory Fosner. Donc on va se retrouver quelques peintres à faire en même temps, on est en 2002, 2002-2003, nos premières expositions de peinture. Et en fait, on pense se faire cartonner. En fait, les expositions vont s'avérer être à la fois un succès parce qu'on va faire sold out tous.
Ouais.
Et en plus de ça, il va y avoir des articles dans Art Press. Il va y avoir... Donc en fait, on est plutôt bien reçus dans ces premiers moments, on va dire, qui annonce un retour de la peinture, un premier retour. Et ça va faciliter pas mal de choses pour moi. Ça va me permettre derrière de trouver des galeries à l'étranger. Et derrière, tout de suite, Suzanne, elle me dit « Reste pas en France parce que ça va te monter à la tête. » C'est pas que c'était un succès délirant, mais il faut que tu gardes la tête froide, que tu continues à travailler. Moi, j'ai plein de jeunes artistes allemands à Leipzig en ce moment que j'expose. Va les voir. Et en fait, je vais partir 2 ans à Leipzig travailler au Spinnerei. Donc, à cette époque-là, c'est un autre épicentre en Europe de la peinture. La Spinnerei, c'est là où Neuror a son atelier. Et beaucoup des élèves qu'il a eus, dont Tim Eitel, Thilo Baumkartel, Matthias Weicher, enfin toute cette génération qu'on va appeler l'école de Leipzig, ont leurs ateliers. Et moi, je vais avoir mon atelier avec eux et on va travailler 2 ans ensemble. Et d'accord. Ça va être une super belle expérience. Et autre chose que je trouve intéressant dans ce truc-là, c'est qu'en Allemagne, ils ont l'habitude du collectif. Alors qu'en France, on était plutôt artiste individuel. Et en fait, le Spinnerei, tel que ça a été monté, ça ressemble à Push aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un bâtiment, c'est une ancienne usine de lin qui a été transformée. Il y a 250 ateliers. Dans les rez-de-chaussée, il y a une dizaine de galeries, dont Eigen & Art, Klendit, des galeries assez importantes. Il y a un magasin Bosner qui s'est installé. Ils ont monté un restaurant. Donc, on sent qu'on est quand même dans une grosse énergie. Et ça va me conforter dans l'idée qu'il faut aussi qu'on ait ce collectif en France. Donc, je vais avoir la volonté, quand je vais revenir m'installer en France, de jouer sur le collectif et de dire à tous mes potes artistes, il faut qu'on soit ensemble. Ouais. Ça va nous donner plus d'impact, plus de force pour aller un peu plus loin.
D'accord.
À l'époque, est-ce que tu es à la DAGP déjà ou pas?
Alors, j'y suis adhérent, mais je ne suis pas encore administrateur.
D'accord. Okay,
je vais être administrateur, je crois que c'est en 2016 qu'ils vont me demander.
Tu as aussi participé à un syndicat, non?
Alors, j'ai monté une association qui s'appelle ASAP, ouais. Association de soutien aux artistes professionnels.
Ouais.
J'avais monté ça avec Jacques et Evelyne Deray, qui avait monté Art Collector aussi. En fait, ça va correspondre à un moment où je vais souvent dire que je suis militant dans mon métier. C'est-à-dire militant à la fois pour aider les artistes à se structurer, mais militant aussi en me disant le milieu de l'art en France, il est trop restreint. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui auraient la curiosité de l'art, mais qui ne l'ont pas. Donc, on parle souvent des collectionneurs et tout ça, mais pour moi, il y a énormément de collectionneurs en devenir, mais il faut les accompagner, ces collectionneurs. Il faut les former, il faut leur donner l'opportunité de découvrir ce que c'est que le milieu de l'art. Et c'est vrai qu'on entend souvent cette phrase, moi, j'ose pas rentrer dans une galerie, c'est impressionnant. J'ose pas acheter une œuvre d'art parce qu'on ne sait pas si on va me dire 5 000 euros ou 1 million. Donc, il y a une forme d'intimidation. Et je vais beaucoup travailler là-dedans. Je vais travailler aussi à structurer un peu les artistes et avec cette idée que le défaut majeur du milieu de l'art en France pour moi, c'est qu'il est construit sur le modèle amateur et pas sur le modèle professionnel. Et c'est le constat que je vais faire assez vite quand je vais rentrer d'Allemagne, Parce qu'en Allemagne, quand je fais une exposition, il y a 3 échanges de mails, on fait un catalogue, on sent que tout est carré, les liens avec les imprimeurs, les trucs. Et je reviens en France, je fais 2 expositions, il y a 250 mails, personne ne comprend rien. Le centre d'art t'appelle en te disant « Oui, finalement, on n'a pas le budget pour le transport, t'aurais pas, on cloue un camion, tu viens. » Enfin, tu dis « Attendez, je ne suis pas transporteur, je suis pas… » Et en fait, je vais me dire « Non, en fait… En France, on est plus dans le modèle de la kermesse que dans le modèle de l'art professionnel. Et c'est vrai que comme je vais commencer à travailler avec des galeries étrangères, c'est le reproche que les galeries étrangères vont faire. C'est-à-dire qu'ils vont me dire « Non, mais t'es gentil, mais on attend la liste des œuvres, on attend les trucs, on n'a pas les bons visuels, on est super content de ton travail, mais tout ce qu'il y a autour, nous, ça nous demande 2 fois plus de boulot d'organiser ton expo. En plus, t'es moins cher que les autres artistes, donc… grosso modo, t'es pas rentable. Ouais. Donc, je vais me servir de ça un peu comme une leçon et je vais essayer de voir comment déjà, moi, personnellement, je peux me structurer pour être le plus pro possible, avoir des visuels propres, avoir un archivage, des choses comme ça. Et je vais essayer de sensibiliser mes potes artistes en leur disant, non, mais vous vous plaignez qu'on n'expose pas à l'étranger, mais c'est normal, quand on arrive, ils ont l'impression qu'on est tous des bras cassés. Donc, ils préfèrent travailler avec un Américain, un Allemand, un Anglais, enfin… La formation en Angleterre, déjà, elle coûte 150 000, 200 000 euros. Quand on a un emprunt sur le dos, on se structure pour savoir quel va être l'après. Donc, il y a cette dimension-là qui est super importante. Et je vais essayer de comprendre comment mon travail s'organise avec un écosystème et autour de cet écosystème, comment je peux l'organiser au mieux. Et quand je dis qu'il est structuré plutôt sur le modèle amateur que professionnel, c'est pas seulement les artistes, mais c'est aussi les galeries et c'est aussi les institutions. C'est-à-dire que je m'aperçois que les institutions, souvent, ils ont des lignes budgétaires qui sont… c'est un peu fait n'importe comment. Les galeries, il n'y a pas de structure réelle. Les fiches de dépôt, les fiches de prêt, on les fait une fois sur deux. Le transport, c'est… les œuvres, elles arrivent avec un accro. Tout est emballé n'importe comment. Enfin, voilà.
Ça vient d'où ça pour toi, cette différence et ce…
Je pense effectivement que pour revenir à la réflexion de mon père qui me dit c'est pas un métier, il avait raison en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'idée populaire ou générale en France, c'est que c'est pas un vrai métier.
C'est à l'instinct
c'est au fil de l'eau, on vit d'amour et d'eau fraîche et donc c'est à la cool. Et comme c'est à la cool, c'est pas professionnel. Et je pense que ce qui s'est passé de plus spectaculaire là, dans les 10 dernières années, c'est la professionnalisation de notre milieu. Alors, il y a encore du boulot parce que c'est pas génial, mais on revient de très très loin. Notamment de payer les artistes pour les expositions, des choses comme ça. On commence à avoir ces choses-là. Mais au début, quand on nous proposait une exposition dans un centre d'art, déjà, on était bien contents qu'on nous le propose. Ouais. Et après, t'es pas sûr que le transport soit assuré. On t'explique que ça va être un type qui va louer un camion qui va chercher les œuvres. Tu vois le camion partir, tu pries pour que tout arrive bien. Tu t'aperçois que le mec, il ne sait pas sangler un tableau. La plupart ne savent pas emballer. Les tableaux reviennent, la bulle, elle a été mise à l'envers. Donc, tu te tapes de la restauration derrière, enfin, etc., etc. Donc ça va être quelque chose où, dans les détails, comme dans les grandes lignes, il va falloir structurer les choses. Et une autre partie qui est assez notable sur le fait que ça ne soit pas professionnel, c'est dans la comptabilité. C'est-à-dire que beaucoup de structures ne font pas de bilan comptable, ne gèrent pas une économie, et on se retrouve avec des galeries qui veulent faire 3 foires et avoir un loyer exorbitant et vendre des œuvres à 1 000 euros et au bout de 2 ans mettre la clé sous la porte en disant « je ne comprends pas ». Alors que simplement en posant recettes-dépenses, tu pouvais lui dire « non, mais ne te lance pas, ça ne marchera pas ». Même si tu vends tout, l'économie, elle ne marche pas.
Dans la formation aussi, est-ce que tu n'as pas quelque chose à nous raconter peut-être de cette différence qu'il y a entre la réalité du marché et peut-être ça a changé aussi ces dernières années, mais la réalité du marché et puis ce qu'on nous apprend à l'école. Là, récemment, j'ai eu un jeune stagiaire qui a Sergi, qui a aussi une expo en galerie. Et en fait, c'est presque les profs de l'école sont contre cette exposition. C'est-à-dire, ils disent, ah, c'est trop tôt, faut pas, oh là là, tu te formates trop au mur de la galerie et ces choses-là. Peut-être que tu as quelque chose, une opinion là, sur ce genre de réflexion.
Oui, moi je pense que la plupart des professeurs forment pour avoir le diplôme, mais pas pour le reste.
Oui, mais justement.
Alors, moi je parle de quand j'étais au Beaux-Arts à Bordeaux, la plupart des professeurs n'avaient pas fait d'expo, n'étaient pas artistes. Ils se disaient artistes parce qu'ils avaient une petite pratique comme ça et ils avaient fait 2-3 accrochages et ils avaient une œuvre qui avait été achetée par un frac et puis voilà, mais ils n'avaient pas une économie derrière. Moi, quand après les Beaux-Arts, je rencontre Bernard Venet, je rencontre quelqu'un qui a une carrière, qui a un parcours, qui a une œuvre, etc. À Leschinski, pareil. Donc moi, je me dis, non, mais je vais plutôt écouter des gens qui ont réussi que des gens qui n'ont pas réussi. Parce que à la limite, l'autre, il va m'expliquer pourquoi ça n'a pas marché, alors que l'autre va m'expliquer pourquoi ça a marché. Donc je préfère aller dans ce sens-là. Et du coup, quand je m'adresse à des artistes ou à Gérard Garouste ou à des gens comme ça, et tout d'un coup, on se dit, ah ben oui, mais en fait, la différence, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a du temps d'atelier, il y a du temps pour montrer son travail, il y a du temps pour en faire la promotion, il y a du temps, enfin voilà, c'est tout un...
Et du coup, tout ça, tu l'apprends sur le tas. Alors,
exactement.
Avec les conseils de
exactement, tu l'apprends,
mais...
voilà, tu l'apprends sur le tas, mais moi, je veux bien pousser la question plus loin. Qu'est-ce qu'on apprend aux Beaux-Arts? Mais moi, je n'ai absolument rien appris. Enfin, je suis un peu radical, mais quand je suis arrivé à l'école, il y avait un labo photo, il y avait un labo Tamcode. On m'a dit, voilà, tu fais ça, tu trempes ton bain dans la photo, c'est super, tu as ta photo qui apparaît. Bon, voilà. Mais sinon, moi, j'ai passé mon temps à la bibliothèque. Quand je voulais voir des profs, il fallait que j'aille à la cafette, parce qu'ils étaient à la cafette quand ils étaient là. Mais la plupart du temps, l'école, elle était vide. Et nous, comme on était peintres et que ça sentait la terre ébantine, on ne nous avait même pas mis dans l'école, on nous avait mis à l'annexe. Et les Beaux-Arts de Bordeaux, c'est une école municipale. Et le jour où la mairie a décidé de voir comment ça se passait, on a eu un coup de fil de la directrice qui dit « Est-ce que vous pouvez déménager vos toiles à l'intérieur pour qu'on voit qu'il y ait quand même un peu d'activité dans l'école ?» Mmh. Donc, voilà, c'était un peu ça, le truc. Et c'était quoi les rendez-vous avec les profs? C'est 20 minutes à la cafette où il dit « Oui, tu as fait ça, mais est-ce que tu es allé regarder Marcel Duchamp? Est-ce que tu es allé regarder un tel? Est-ce que tu es allé regarder un tel ?» Enfin, c'est pas ce que tu attends d'une formation. Sachant que c'est une des formations qui coûte les plus chères en France. Hein, là, un étudiant aux Beaux-Arts coûte le double d'un étudiant en fac. Donc, il y a aussi ce sujet-là qui est derrière. Hein. Mmh.
Est-ce que, du coup, tout à l'heure, avant qu'on commence, tu nous parlais qu'il y avait 3 grandes périodes dans ton activité. Mais est-ce que tu peux nous parler, là, maintenant, comment ça se passe, la vie de ton atelier? Comment c'est construit, tout ça, là, maintenant?
Alors aujourd'hui, j'ai constitué un atelier. On va dire les 3 grandes phases, moi, j'en ai pas mal parlé. La première, c'est les débuts. Donc on bidouille, on essaye de se faire connaître. Donc là, ça a été la partie où j'ai beaucoup travaillé avec Julien Taraziev.
Par exemple, quand tu es en Allemagne, etc., tu vis de quoi en ce moment?
En fait, je vis déjà des ventes de mes tableaux parce que la première exposition qu'on fait avec Suzanne est un super succès. Ouais. Et puis, j'ai la chance de démarrer avec une super marchande. Suzanne Taraziev, ça va être quand même une marchande exceptionnelle dans cette époque-là. C'est quelqu'un qui m'a énormément appris sur mon métier, sur qu'est-ce qu'était un collectionneur. Elle connaissait très bien ses collectionneurs. Mmh. Et dès ma première exposition chez Suzanne, j'ai jamais eu un problème à vivre de ma peinture parce qu'elle vendait très bien ma peinture. D'accord. Elle arrivait à la vendre beaucoup à des collectionneurs privés. Elle arrivait aussi à me placer dans quelques institutions. Donc, de ce côté-là, assez vite, le problème financier, entre guillemets, était résolu.
Ouais.
Donc, elle me faisait participer à toutes les foires. Elle faisait la FIAC, elle faisait Art Bruxelles. On faisait la foire de Mexico ensemble. En plus, elle ne parlait pas anglais, donc elle m'amenait à chaque fois. Donc, c'était l'occasion de voir à quoi ressemblait une foire. Donc, j'ai beaucoup appris à son contact. Ensuite, comme tu l'as dit avant, j'ai beaucoup voyagé, donc je suis parti faire un tour du monde. J'ai profité de la vie et de faire en sorte de réaliser certains rêves que j'avais. Et puis, dans la deuxième partie, j'ai travaillé avec d'autres galeries. Et là, ça s'est un peu moins bien passé. Les galeries arrivaient à vendre quand même mon travail, mais beaucoup de galeries étaient en difficulté, notamment à cause des foires, parce que beaucoup n'avaient pas les moyens de les faire, mais voulaient les faire quand même.
Et du coup,
sollicitaient beaucoup les artistes, à la fois en production, parce qu'il disait j'ai été pris à la foire, c'est super, mais une foire ça coûte entre 35 ouais. et 50 000 euros. Donc il dit moi j'ai besoin de 10 tableaux. Et pour un artiste, mettre un tableau en foire ou 4-5 tableaux en foire, c'est on casse une série quoi. Et en foire, c'est montrer 3 jours, c'est pas une expo complète. C'est, donc il commence à y avoir quelques réticences pour moi à montrer mes tableaux en foire. Je me dis moi je préfère qu'on prépare une belle exposition, qu'on monte les choses et qu'on inscrive un peu le travail aussi dans le temps, parce que un des côtés négatifs de bien vendre son travail, c'est que des fois les toiles elles vont de l'atelier au collectionneur ouais. directement et personne ne les verra jamais. Ouais. Donc je vois pointer ce risque de devenir quelqu'un qui vend bien son travail mais qui ne le montre plus trop. Mmh. Et en 2017, je vais faire une rencontre assez importante. Je vais rencontrer quelqu'un qui s'appelle Delphine Toutain, qui a monté Tada Agency. À l'époque, elle a travaillé avec JR, elle a travaillé au Musée Picasso, et elle a comme idée d'aider les artistes à se structurer administrativement. Et moi, j'étais vraiment en recherche de quelqu'un qui pouvait me permettre de faire ça. Je vois bien que mes relations avec les galeries ne sont pas celles que j'attends. Parce qu'en fait, eux sont plus dans un rapport marchand, alors que moi, j'ai besoin de faire exister mon travail. Et je pense que les foires ont un gros rôle là-dedans. C'est-à-dire que ça devient une course à l'échalote. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des foires pour exister. Donc, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'œuvres pour exister. Et du coup, on se retrouve à nous fournir des tableaux pour qu'elles puissent être vendues en foire, pour que l'économie marche. Mais je me dis, là, on n'est pas du tout en train d'installer...
Oui, ça ne constitue pas une œuvre sur le temps long.
Exactement.
Sur des périodes plus...
Et avec Delphine, elle va m'aider à la fois à structurer mon économie. Elle va me dire, bon, voilà, combien tu fais de tableaux par an, combien t'en vends, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi ton économie. Depuis le départ, j'avais compris que, ça c'est un conseil que je donne, c'est que dès qu'on débute, il faut annualiser un peu son économie. C'est-à-dire que quand on est salarié, ben, on touche son salaire tous les mois. Quand on est artiste, il vaut mieux réfléchir en années. C'est plus simple. C'est-à-dire que, à la fois dans les dépenses et dans les recettes. C'est-à-dire que j'ai un loyer de 1 000 euros, 12 mois, ça fait 12 000 euros par an. Voilà. Donc, j'ai 12 000 euros de dépenses, donc il faut qu'en face, j'ai 12 000 euros de recettes. C'est si je veux qu'il y ait un équilibre. Bon, ben, ça, c'est une mécanique que j'ai eue assez tôt. Et c'est vrai qu'avec Delphine, on va essayer de l'organiser un peu mieux. On va faire l'inventaire des œuvres que j'ai en stock, etc., etc. Et ce simple fait de s'organiser va déjà me permettre, un, d'y voir plus clair, de consacrer aussi plus de temps à mon travail et moins de temps à faire de l'administratif et tout ça. Et ça va me permettre de pouvoir avoir une première personne qui travaille avec moi et qui va m'aider, on va dire, à tout ce qui est le travail d'organisation au quotidien. Et un centre d'art me demande de faire une exposition, bah, elle organise les transports, la liste des œuvres, les fiches de prêt, tout ça qui prend quand même beaucoup de temps. Et moi, si je passe du temps à faire ça, c'est du temps au moins à peindre.
Tu peins pas, ouais.
Et donc, très vite, on va avoir une personne. Et en ayant cette personne en plus, je vais m'apercevoir que bah, ça me dégage du temps, ça me permet de répondre aussi à des expositions plus importantes. Et c'est au même moment que je vais avoir les premières grandes commandes. Et à ce moment-là, j'ai Yannick Aleno qui me demande de faire le plafond du pavillon Le Doyen. Je n'ai jamais fait de plafond, donc je me renseigne comment on fait un plafond, qui pourrait m'aider à maroufler le plafond. Donc il faut que j'intègre dans mon budget... d'autres intervenants, la temporalité dans laquelle on fait le projet. Et puis au même moment, je vais avoir un jeune artiste des Beaux-Arts qui s'appelle Nicolas Marciano qui va m'appeler en disant « j'aimerais bien faire un stage avec toi ». Donc bah, ça tombe bien, moi j'ai un plafond à faire, donc on va travailler ensemble. Et petit à petit, va se structurer l'idée d'un atelier. Et au début, ça se fait un peu de manière empirique. La relation avec Nicolas va bien se passer. Au même moment, il y a Yann Lacroix aussi qui m'aide à faire 2-3 projets. Donc je me dis, mais moi j'aime bien cette idée de travail en collectif. Et petit à petit, le fait de pouvoir répondre à cette commande, bah, les gens vont se dire, ah ben Olivier est capable de répondre à ces commandes, donc je vais avoir d'autres sollicitations. Je vais avoir l'hôtel Saint-Régis à Venise qui va me dire bah, on aime bien ce que vous avez fait au pavillon Le Doyen, nous on a un hôtel à Venise, est-ce que ça vous intéresse d'intervenir dessus? Et donc là il y a tout un hall à faire, il y a 5 suites à faire, plus des idées dans les chambres, dans les couloirs, donc il va falloir réfléchir à tout ça. Et l'atelier va se structurer un peu autour de cette idée-là. Et puis, comme on arrive à avoir ces projets, bah, on a un peu plus d'argent. Mm-hmm. Et comme on a un peu plus d'argent, Delphine, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Est-ce que tu veux... je lui dis, on fait un peu de trésorerie. Elle me dit, ça serait bien aussi de mettre un peu dans la com. Mm. Et c'est vrai que moi, je commence à utiliser pas mal les réseaux sociaux, mais ça me prend beaucoup de temps. Donc, elle me dit, mais moi, je connais quelqu'un qui peut s'en occuper pour toi, faire en sorte que ta page Instagram, ça soit un peu plus pro, justement, ouais. Un peu plus organisé. Et on va structurer la communication, on va structurer la logistique du quotidien. Et donc, petit à petit, je vais m'apercevoir que naturellement, plus on est organisé, plus l'économie devient un peu vertueuse. Donc, on gagne un peu plus d'argent, qui nous permet de faire des projets de plus en plus intéressants et de joindre d'autres collaborateurs à la structure. Mmh. Donc, aujourd'hui, on est 6 dans l'atelier.
D'accord.
Des personnes qui viennent, qui sont des jeunes artistes ou des étudiants en beaux-arts, qui m'aident dans le cadre des projets. Et l'idée, c'est aussi de leur transmettre un savoir-faire autour de la peinture, du dessin, de la pratique artistique. Et c'est quoi devenir un artiste ? Des personnes qui sont plus sur autour de la communication et de la vente. Et donc Delphine qui est toujours là et qui m'aide pour la structure de la comptabilité. Une personne qui m'aide au quotidien pour justement l'organisation. Et puis là, j'ai une amie qui est arrivée depuis 2 ans. On travaille un peu ensemble sur plein de projets et on s'amuse sur tout ce qui est design, tout ce qui est les projets justement de collaboration avec des marques ou des choses comme ça.
D'accord. Et t'as combien... Attends, parce que
t'as combien sur ton compte ?
Non, t'as un gros compte Instagram.
Ouais.
Moi, je me souviens quand on s'était vu sur une expo à Thionville et on avait parlé de ça un petit peu. T'as, je sais pas, 25 000 followers, un truc comme ça.
Qui est beaucoup, mais pas...
Ce qui est énorme comparé à l'Instagram de 100 titres.
Oui, non, puis à l'Instagram de beaucoup de monde, réalité. Enfin, de beaucoup de...
Et je t'avais demandé si ça changeait quelque chose dans ton économie, cet Instagram-là, et tu me racontais qu'il y avait, et ça c'est d'ailleurs vérifié, puisque tu as une boutique aussi en ligne pour vendre ton travail, tu racontais que tu faisais un peu, enfin, ça te donnait aussi un levier par rapport aux galeries, et puis aussi ça te permettait de vendre en direct. Est-ce que tu peux nous parler de ça ?
Ouais, alors l'histoire des réseaux sociaux... Quand Facebook arrive, moi, je suis à Barcelone avec un copain dans une auberge de jeunesse. Et puis, je descends dans le hall et je vois tous les ordinateurs allumés avec une page Facebook ouverte. Et on est en 2007, 2008, un truc comme ça. Et là, tu dis, oh, tiens, il est en train de se passer un truc. Donc, toi aussi, tu crées ta page. Évidemment, au début, Facebook, tout le monde poste ses conneries. C'est un peu un truc. Et en 2012, j'ai une personne qui me contacte et me dit, ah, j'aime bien votre travail. J'aimerais bien acheter un tableau. Et là, je me dis, ah, tiens, je vais nettoyer un peu ma page et arrêter de poster des photos de moi bourrées dans les soirées. Et je vais commencer à faire un truc un peu intéressant. Instagram va arriver derrière. Et Instagram, on sent bien que c'est beaucoup plus axé sur en tout cas des supports visuels. Donc, au début, je vais le faire de façon un peu empirique. Et très vite, je vais comprendre que c'est un outil qui est absolument génial, qui est plus efficace que, on va dire, un site web. Ouais. Il y a une interaction qui se fait. Puis en plus, la messagerie va arriver assez vite sur Instagram. Donc, on peut être contacté. Donc ça va changer aussi beaucoup de choses. Et on va développer une sorte de stratégie pour poster régulièrement, pour comprendre aussi l'algorithme, parce que c'est un algorithme changeant. Donc, au début, il fallait poster beaucoup. Après, il a fallu poster des vidéos. Enfin, il y a eu différentes phases. Et là où Instagram va se révéler un outil hyper intéressant, ça va être pendant le Covid. Parce que là, tout d'un coup, plus d'expo, plus rien. Et tout le monde est sur ses écrans. Et effectivement, Instagram va vraiment prendre un gros relais. L'année 1 Covid, on va faire quasiment 100% des ventes grâce à Instagram.
Ouais.
Et moi, j'ai beaucoup échangé avec des amis artistes. Tous ceux qui avaient pris un peu le pli Instagram pendant le Covid, ça va être une année où ils vont beaucoup travailler. Ceux qui ne l'ont pas pris, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux.
Parce que tout ça, c'est un mouvement que tu as déjà commencé à mettre en place, toi, tout seul de ton côté, avant l'arrivée et les conseils vraiment
Alors en fait, moi, je me souviens d'un article qu'avait écrit Frédéric Clade. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Frédéric Clade. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec différentes structures, des galeries, pour justement les accompagner, et qui avait fait un article qui était assez chouette, qui s'appelait « Le déni de l'art contemporain ». Et dans cet article, il expliquait un peu les phases de transition d'un secteur d'activité face au numérique, à l'apparition du numérique. Et en fait, il y a la phase de déni, qui est la phase numéro 1. Donc on dit non, ça ne marchera jamais. Puis la phase 2, une phase un peu de remplacement. Puis une phase 3, où...
D'adoption complète.
Ouais, puis surtout, où de nouveaux acteurs prennent le pas sur les autres. Et à l'époque où on commence à s'intéresser aux réseaux sociaux, il y a plein de gens qui disent « Non, mais l'art, ça ne se vendra jamais sur Internet parce que les gens ont besoin de voir l'œuvre en vrai et tout ça. » Et c'est comme les gens disaient « Mais jamais quelqu'un prendra son billet d'avion via une plateforme parce qu'on a besoin d'avoir le guichet, le truc. » Mais en fait, on a bien vu sur ces 15 dernières années comment le numérique a transformé nos façons de consommer. Et je vais m'inspirer un peu de cet article pour me dire, oui, effectivement, je pense que ça va être une phase importante, de la même manière que l'arrivée d'Internet a bouleversé la manière de faire de notre métier. Et moi, sur les 20 dernières années, j'ai l'impression que mon métier, il a changé vraiment de nombreuses fois, quoi. C'est-à-dire que ma première exposition chez Suzanne, c'est 5000 cartons d'invitation et on passe 2 jours dans la galerie à coller des timbres. Il n'y a plus beaucoup de galeries qui font ça aujourd'hui. Alors on y revient aussi, parce que des fois, faire un vrai envoi postal, c'est pas mal.
Plus de sens que un truc générique.
Ouais. Mais on voit toutes ces phases qui sont à l'œuvre. Et en fait, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe aujourd'hui qui est assez jeune et qui aussi est très attentive à tout ce qui est en train de se passer pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre. On voit aussi qu'on rentre dans un monde en crise. Donc, c'est vrai que je parlais du Covid, mais on va dire que depuis le Covid, on voit que on enchaîne les crises les unes sur les autres et qu'on ne peut plus prévoir des expositions comme on les prévoyait avant. Une exposition, pour la monter, il faut presque un an. Le jour de l'exposition, s'il y a une grève, s'il y a un truc. Et aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui va faire que... Donc, il faut aussi réfléchir à comment avoir une constance pour montrer, promouvoir et vendre son travail, pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans un échec. Et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui parce que là, l'année a été assez compliquée pour beaucoup de galeries, pour beaucoup d'artistes. Et en fait, si on attribue les mauvaises causes à un échec, souvent on fait porter la responsabilité à de mauvaises personnes. Et là, moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait des expositions sur cette rentrée-là. Les expositions n'ont pas marché. Et puis, les galeries leur ont dit « Ouais, mais c'est ton travail et tout ça. » Non, c'est pas ton travail. Il n'y a aucune exposition qui a marché, enfin, ou très peu. Donc, on sent bien qu'il y a des bouleversements économiques, il y a des bouleversements sociétaux. Donc, si on commence à dire à un artiste « c'est ton travail qui ne va pas », alors que tout se casse la gueule autour... On plombe un artiste alors que le travail est super bien.
Est-ce que, une question un peu bête dans ce sens-là, est-ce que ça a eu une influence sur ta façon de pratiquer? Parce que là, on parle beaucoup de finalement d'optimisation un peu schématiquement de diffusion, de stratégie pour montrer son travail.
Mais en fait, moi, ça m'a dégagé du temps pour moi. C'est surtout ça.
Mais jamais tu t'es dit, jamais ça n'a eu un impact sur. Sur les images que tu avais en tête, etc.
Moi, j'ai l'impression que ça a forcément eu un impact parce que ça m'a permis de faire d'autres rencontres, ça m'a permis d'élargir aussi le champ de la création. Quand on a la possibilité de faire une collaboration avec une marque, quand on a la possibilité de faire une grande commande et un truc comme ça, forcément, quand je fais un plafond pour la première fois, ça va bouleverser. Moi, je travaille sur des horizons, je me dis, si je fais un plafond, il n'y a plus d'horizon, où est-ce que je le mets? Donc forcément, ça modifie, mais c'est ce que je trouve passionnant. C'est-à-dire que effectivement, j'aurais pu rester tout seul dans mon atelier à faire toujours le même tableau. Mais je pense que un artiste a besoin de se nourrir d'expérience, il a besoin de se nourrir d'échecs, il a besoin de se nourrir de confrontations, de réfléchir à son modèle, de le remettre en question, parce que effectivement, comme le monde bouge autour de nous, sinon on reste dans notre mansarde et puis on, enfin voilà, c'est la chanson d'Aznavour.
Puis c'est finalement peut-être ça aussi un côté plus professionnel, c'est-à-dire être capable de faire ces pivots-là.
Et puis à cette question, parce que j'ai eu souvent des journalistes qui m'ont posé cette question, cette professionnalisation, est-ce que ça pervertit pas ton travail, un truc comme ça. J'explique qu'un artiste, on lui demande aussi de comprendre la société dans laquelle il vit. Donc pour comprendre la société dans laquelle je vis, il faut que j'expérimente aussi la société dans laquelle je vis. Donc il faut que j'expérimente les réseaux sociaux, il faut que j'expérimente l'économie, On a cette vision peut-être un peu romantique ou en France, mais Rubens, c'est un atelier de 250 personnes. C'est un mec qui est représentant dans toute l'Europe pour aller choper les commandes. C'est quelqu'un qui fréquente toutes les personnes les plus pour comprendre aussi, à la fois pour avoir les commandes, mais aussi pour comprendre la société dans laquelle il vit.
T'as l'impression qu'on attend de toi autre chose ? Dire que on voudrait que tu sois un peu un clochard dans ton atelier.
Mais c'est sûr.
Qui sent l'attente et ralentit.
Mais évidemment, parce que ça c'est un autre sujet, mais on pourra en parler. Le milieu de l'art en France, il est ultra paternaliste. Que ça soit les collectionneurs, que ça soit les galeristes, ils adorent avoir un ascendant sur toi. Et moi, je sais que des fois, il y a des collectionneurs qui sont un peu déstabilisés parce que. J'ai des salariés, j'ai des problématiques qu'il connaît, alors peut-être dans une autre échelle, mais du coup, je peux échanger avec lui sur ce sujet. Et alors que lui, il préfère, viens mon petit garçon, je t'invite à ma table, et puis voilà, t'es quelqu'un de docile. Et on oublie qu'un artiste, ça doit pas être docile. On oublie qu'un artiste, ça doit faire des vagues. On oublie, enfin, et c'est souvent moi l'impression que j'ai eue depuis l'école, c'est que depuis l'école des Beaux-Arts, on a voulu faire de moi un mec. Poli, gentil, qui fait dans sa caisse. Et voilà, pour moi, ce n'est pas la vision que j'ai d'un artiste. Un artiste, non, il doit questionner le monde dans lequel il est, il doit en prendre l'ampleur, il doit s'y confronter. Et c'est vrai qu'être tout seul dans son atelier avec son café et en écoutant France Inter, c'est super. Hein, moi, je le fais. de temps en temps, et c'est très confortable. Mais il faut aussi avoir l'envie de se confronter au monde.
Mais alors, du coup, tu as une belle présence sur les réseaux, tu es une entreprise. Ouais. Et est-ce que, par contre, tu vas faire les vernissages ? Est-ce que tu vas faire les foires ? Comment tu fais ta présentation physique, en fait, IRL ?
Alors, ça dépend des moments. Ça dépend de ce que j'ai à faire aussi. Là, je suis dans un travail un peu de longue haleine sur ma peinture. Ça fait 6 mois que je suis dessus et j'essaye vraiment de comprendre les évolutions, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Donc ça, c'est un travail plus solitaire. Donc j'ai la chance d'avoir l'équipe autour de moi qui me remonte les infos, qui gère les expositions, les trucs comme ça. Et On a besoin de quelques échanges de mails, de se voir de temps en temps. Et en fait, il me protège un peu pour que je puisse consacrer énormément de temps à ma pratique. Parce que j'ai ressenti le besoin de la questionner, de la faire évoluer. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je vais voir certaines expos qui m'intéressent. Je fais quelques vernissages, mais j'en fais pas tant que ça. Parce que je sens que j'ai besoin de ce temps d'atelier qui est un temps long. Alors, c'est aussi un sujet qui est hyper important et dont on ne parle pas aux étudiants Beaux-Arts, c'est que la création, c'est un temps long. Et aujourd'hui, on est dans une société rapide, donc c'est un paradoxe. Et en fait, il ne faut jamais oublier que la création, elle va s'inscrire dans une temporalité qui n'est pas la même que la temporalité de la société aujourd'hui. On est dans une société du temps court, les choses s'accélèrent, l'information arrive très très vite. Le temps de la création, c'est un temps totalement différent, qui se compte en semaines, en mois, en années, par moment. Donc, il faut savoir ce qu'on est en train de mettre à l'œuvre quand on décide de créer.
Comment ça se passe aussi avec les galeristes Alors, je reviens sur le truc d'Instagram, mais je veux que tu nous alors, racontes ça.
Les galeristes, au début, ils étaient super réticents. Ils voulaient qu'on se retire. Enfin, ils nous ont fait la guerre, hein, beaucoup d'artistes. Au début, ils ne voulaient pas qu'on ait de site web. Après, ils ne voulaient pas qu'on ait de compte Instagram. Et il y a eu une inversion qui s'est opérée. Maintenant, les galeries viennent chercher des artistes qui ont des gros comptes Instagram. Parce que, du coup, la réalité s'est inversée. Donc, ça, c'est une des premières choses. L'autre chose, c'est qu'il y avait cette idée un peu idiote et qui appartenait au passé que. Il y avait des concurrences. Et en fait, on est rentré dans un monde qui n'est pas un monde de concurrence, mais qui est un monde de synergie. Et ça, beaucoup de galeries ne l'ont pas vu. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs galeries. Elles disent « va pas dire à telle galerie que j'ai tel collectionneur ». Ils ont le même fichier de collectionneur, ils ont les mêmes. Donc, le milieu de l'art, il est pas, en France, il est pas, c'est pas énorme. Hein. Et au lieu de faire en sorte de créer cette synergie, ils empêchaient certains artistes de faire des expos. Oui, non, mais parce que du coup, il va y avoir un jeu de concurrence, des trucs comme ça. Et en fait, derrière cette dynamique, et puis après, moi, quand j'ai organisé l'atelier, pareil, il y a des galeries qui m'ont dit « Oui, mais non, mais t'organises l'atelier, c'est pas bien, tu fais notre métier. » Ben non, je fais le métier que vous faites pas. Parce que en fait, vous dites que vous voulez organiser la structure de la galerie, mais en fait, vous n'avez pas le temps de le faire parce que vous êtes pris par les foires, les vernissages. Mais en fait, tout ce qui est le travail de fond, vous n'avez pas le temps de le faire. Donc moi, je le fais. Et pareil, il y a un retournement aujourd'hui de galeries qui veulent travailler avec moi parce que c'est un confort. Ils savent qu'ils ont les fiches de prêt, ils ont les visuels, ils ont les trucs et c'est réactif. Les choses arrivent en temps et en heure. Et donc, maintenant, elles se disent « Non, c'est pas mal ton truc hein, » parce que du coup, ça nous fait gagner du temps.
D'accord. Et est-ce que tu continues quand même, enfin, ou est-ce que tu as commencé à faire des concours, tu présentes des concours, des choses comme ça, ou maintenant tu attends qu'on vienne te chercher?
Alors, il y a les deux, et là, pour les concours, en fait, je travaille avec plusieurs. Alors, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer autour de l'art. Et là, je travaille avec deux filles qui proposent à des artistes de les aider ou de les accompagner sur des concours. Et en fait, elles vont chercher les concours. Et en fonction des concours, elles disent « Ah ben tiens, tel artiste pourrait être pas mal. » Et en fait, elles t'appellent, elles te disent « On a pensé à toi pour tel projet. Est-ce que ça t'intéresse ?» Tu fais une réunion avec elles en disant « Voilà, moi, l'idée que j'ai sur ce projet. » Et puis généralement, ça se passe en deux temps. Il y a une première sélection. Et si on a la deuxième sélection, on part sur le deuxième projet. Donc, je ne les présente pas moi-même, mais il y a d'autres personnes. Donc, c'est vrai que l'atelier, il compte 5-6 personnes. Mais après, autour, on a des relations privilégiées avec des art advisors aussi. Mm-hmm. Parce que pareil, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. On a des galeries avec qui on travaille, des gens qui nous aident sur certains concours, une agence de presse aussi avec qui on travaille depuis 5 ans, qui nous accompagne dans tous les projets d'exposition. C'est l'Agence des Arts. Donc voilà, après, quand on se professionnalise, on génère un écosystème autour de soi. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est de pouvoir avoir des gens compétents pour réaliser des choses que moi, je ne suis pas capable de faire. Moi, je suis pas bon en compta, je ne suis pas bon pour faire des dossiers, je suis pas bon. Moi, je suis bon en peinture, je suis super bon. Donc, laissez-moi faire le travail pour lequel je suis bon et les gens dont c'est le métier, ils vont le faire bien, ils vont le faire mieux, ils vont être plus efficaces et ils sont passionnés par ce qu'ils font, donc c'est beaucoup plus pertinent.
Et ton rapport avec les commissaires d'expo? Il est bon. Non, mais il y a une fidélité. Est-ce que tu
Oui, oui. Il y a des collectionneurs, des marchands, des commissaires d'expo qui me suivent depuis 20 ans, qui sont curieux du travail, de voir l'évolution. Et c'est vrai que ça, c'est la partie peut-être la moins spectaculaire, mais la partie la plus importante, c'est avoir ce fil de la création, cette question. Parce que là, évidemment, on est en train de parler de beaucoup d'écosystèmes, d'organisation, d'administratif et tout ça. Donc, on se dit, ah bah tiens, en fait, lui, c'est un chef d'entreprise et il peint plus. Alors que c'est l'inverse, en fait. C'est que tout ce qui s'est organisé me permet de faire ce travail de fond. Hier, j'étais avec un collectionneur, j'ai passé 4 heures avec lui. Ça fait 20 ans qu'il suit mon travail. J'avais besoin de son regard sur ce que je faisais en ce moment. J'avais des questions presque existentielles sur ce que j'étais en train de produire. il a pris le temps, j'ai pris le temps avec lui. Je peux avoir un critique d'art qui vient, qui pareil, avec qui on a cet échange. Et moi, ça m'aide dans l'évolution de mon travail, parce que c'est le cœur de mon activité. Et ça met du temps.
C'est qui nourrit ton travail, du coup ? Est-ce que le regard extérieur, tu le trouves où ? Tu dis qu'il y a, par exemple, ce commissaire ou ce collectionneur, mais ça, c'est dans l'équipe aussi. Il y a des gens qui ont...
Bah oui, parce que maintenant, on se connaît bien, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Donc, des fois, quelqu'un dans l'équipe dit « ça fait un moment que tu tournes autour de cette peinture, t'es sûr que t'es pas en train de répéter un truc que t'as déjà fait ?» Moi, cette année, où y a tout un travail de remise en question, c'est vrai que dans mon équipe, tout d'un coup, ils ont pointé un truc que j'avais pas vu, et en me disant « mais là, t'es en train de répéter un truc que t'as déjà fait, tu te souviens de cette peinture ou de cette expo ?» Et ils remettent certaines choses en perspective. Dans le stock, un jour, ils sont tombés sur des petits pastels que j'avais fait quand j'avais 25 ans. Moi, je les avais mis un peu rangés et ils les ont sortis. Ils me disaient « mais c'est super ça, pourquoi tu le montres pas ?» Et en fait, en me refaisant découvrir ce travail que j'avais un peu mis de côté, parce que je me suis dit « ah, j'ai fait ça, j'étais jeune, c'était pas bien, etc. » Ils m'ont dit « non, nous on adore, re-regarde. » C'est en plus, ça ressemble aux questions que tu es en train de te poser en ce moment. Donc évidemment, il y a cette nourriture qui se fait au sein de l'équipe, au sein de, on va dire, d'un premier cercle collectionneur, critique, amis, qui sont curieux de savoir, ils sont autant que moi, de savoir qu'est-ce que je vais faire, parce que je serais curieux de savoir à quoi va ressembler ma prochaine exposition qui n'est pas encore faite.
Ça t'arrive de faire des bêtises quand tu travailles ?
C'est-à-dire ?
est-ce que tu as déjà fait... des erreurs dans des expos, des choses comme ça.
J'ai fait des erreurs. On adore faire la fête dans l'atelier. Donc, un jour, on a fait un combat de sabre laser avec Yann Lacroix. Il y a un sabre laser qui a traversé un tableau. Oui, voilà. Genre de truc qu'on peut faire. Sinon, oui, ça m'est arrivé d'avoir des frayeurs dans des gros projets. Quand on a fait Madame Rêve, c'était hyper excitant comme projet. Donc Madame Rêve, c'est l'hôtel qui se trouve à l'ancienne poste du Louvre, qui est en face de la Bourse du Commerce. Et Laurent Taïeb, qui m'avait contacté pour ce projet, m'a dit « voilà, ces 10 fresques à faire, ça fait 5 mètres par 3, tu as 3 semaines pour les réaliser. On est sur un support qui s'appelle un basso à fond, qui est un support acoustique dont on ne connaît pas en gros les propriétés. Nous, on aime bien ton travail. On pense que tu peux être capable de le faire. Rends-moi un projet, enfin une idée dans 3 jours et on regarde si on le fait. » Et j'ai réuni toute l'équipe, plus un restaurateur avec qui on avait fait le plafond, plus Guillaume Bernard Tertré, qui est un mec génial avec qui on travaille beaucoup. Et pendant tout un week-end, on a essayé de réfléchir à la fois à l'idée, qu'est-ce qu'on allait dessiner. Et puis, techniquement, donc, ils nous ont fait livrer un morceau de basso à fond pour qu'on comprenne à quoi ça ressemble. J'avais un ami sérigraphe aussi qui ont testé toutes les matières dessus. Et en fait, c'était un support qui était très, très poreux. Et donc, dès qu'on posait de la peinture, ça faisait une auréole dessus. Donc, c'était un peu comme une sorte de buvard. C'était infernal. Et moi, pendant ce temps-là, je cherchais mon idée et j'avais l'idée de... Parce que je n'avais pas le droit de recouvrir plus de 10% de la surface, parce que sinon, ça perdait les propriétés. D'accord. Donc, il fallait que ça soit une intervention aussi un peu minimale. Et moi, j'avais l'idée d'un dessin d'une femme qui se lève comme ça et puis qui fait un pas de danse, et donc faire une séquence sur les 10 panneaux. Donc moi, je vais rendre le projet. Et, il me dit « j'adore l'idée, donc vas-y, go, on y va ». Et on n'avait toujours pas la solution technique pour à la fois faire le dessin, le truc. On arrive, je la fais courte, on arrive à trouver pas mal de solutions, notamment le sérigraphe qui trouve une peinture pour floquer les t-shirts qui sèchent instantanément et qui nous permet de ne pas avoir l'effet buvard. Ouais. Donc on trouve la solution technique. Et une semaine plus tard, on loue les nacelles parce qu'on travaillait en hauteur et tout ça. On essaye de sérigraphier le support. On y arrive, on pense que ça marche. Et à mi-parcours du projet, on attaque le premier panneau avec la peinture. Et la première sérigraphie, on se recule et ça ne marche pas du tout. Et il est 10h du soir. Et je dis, on arrête tout. on descend des nacelles. Et je regarde mon truc et je me dis, non, ça va pas le faire, c'est pas bien. Et là, on est sur une fin de projet. Tous les supports sont faits, les boiseries sont faites. Ouais. Et toute la nuit, je vais me dire, bon, alors, il va falloir casser le bassoiffond, il va falloir démonter les boiseries. Ça va me coûter je ne sais pas combien de milliers d'euros. Donc, je vais passer ma vie à rembourser le truc. Je vais l'appeler demain matin en disant que j'abandonne le projet et que je ne peux pas le faire. Et donc, j'ai passé une nuit blanche à mouliner mon truc. Pendant ce temps-là, il y a toute l'équipe qui réfléchit aussi de son côté. Quelles sont les erreurs qu'on avait faites, etc. Et le lendemain, j'arrive à 5 heures sur le chantier, je reprends tous les plans, je suis sur la nacelle et tout ça. J'ai l'équipe qui arrive à 7 heures, qui venait tôt aussi parce qu'ils stressaient, on va tout reprendre. Et en fait, on avait fait une petite erreur dans le process et tout le monde avait un peu réfléchi à sa partie. Et en fait, on a rétabli la bêtise. Et donc là, on s'est dit, ah, super, c'est bon, ça marche. Donc, on enchaîne. Et puis, on était tellement excités qu'à mi-parcours, pareil, il est 11h du soir. Il nous reste un petit bout en haut. Le sérigraphe dit, allez, je refais un peu de peinture vite fait. Il descend de la nacelle, il en refait, mais il met trop de liant dans le truc. Et au moment où il veut sérigraphier, on voit toute la peinture qui tombe de l'écran. Et là, j'ai Nicolas, mon assistant, qui prend son t-shirt, qui récupère tout, parce que dessous, on avait les boiseries, le marbre, le machin. Et donc, et là, j'ai dit, c'est un signe, on arrête, on va tous se coucher, on redémarre demain matin. Et voilà, quoi, c'est des super beaux projets qui sont très excitants, mais voilà, on dort pas beaucoup sur ce genre de choses.
Très bien. Eh bien, écoute, est-ce que tu as une actu à venir, quelque chose à nous...
Il y en a pas mal. Ouais. Avec la galerie Antoine Dupin, je suis présent à Drawing Now avec lui. Ça va être au mois de mars, je crois.
C'est bientôt, là.
Cet été, je fais une exposition au château de Montbazillac. La prochaine exposition à Paris, c'est Mairie du 9e. Ça va être en novembre. Oui, voilà.
Voilà. Okay. Et puis pour te trouver, c'est Olivier Masmonteil sur
Instagram. Insta, LinkedIn, Facebook encore. LinkedIn,
mais oui, j'ai vu ça. Je me suis dit que c'est un des premiers artistes.
Il a un TikTok aussi. Hein.
Alors, ouais, le TikTok, avec une de mes collaboratrices, Marie Berthollet, avec qui on travaille depuis 2 ans. Elle m'a dit tiens viens on essaye de créer un compte TikTok, donc on a créé un compte TikTok et ça a été excellent quoi. On s'est amusé parce qu'il y avait beaucoup de, en fait moi j'avais beaucoup de questions d'artistes qui me posaient des questions techniques et j'en avais marre de répondre à chaque fois aux mêmes questions, donc on s'est dit bon on va faire un peu une chaîne un peu tuto et tout ça. Et LinkedIn, c'est parce que je me suis aperçu que la plupart de mes collectionneurs, en fait, c'était leur réseau à eux. Et à chaque fois, ils me disaient « Ouais, mais moi, j'ai pas Instagram. Nous, on est sur LinkedIn. » Donc, on a renvoyé un peu l'info là-dessus. Et c'est vrai que c'est un réseau social qui n'est pas à négliger aujourd'hui. Et tu parlais de la boutique en ligne. C'est aussi Marie qui a fait la boutique en ligne l'année dernière. Elle m'a dit « Oh, on va faire ça. » parce que comme j'avais un travail de lithographie, gravure et stamp que j'aime bien, elle m'a dit autant le tester et ça a très très bien marché. On a lancé ça il y a 1 an et on a des très bons retours dessus, des gens qui veulent acheter une lithographie, un print. Et aujourd'hui, c'est assez facile. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle qui l'a fait. Elle a fait un super boulot, mais ça marche quoi.
Non, mais j'en doute pas. Mais c'est rigolo parce que c'est tout un discours, tout un récit, en tout cas, un peu qui désacralise beaucoup de trucs en général sur ces questions de la vente, de la présence en ligne.
C'est ce qui me donne aussi la liberté. C'est ce qui me donne la liberté de pouvoir créer à côté. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours en tête mes années de travail à Conforama et je ne veux pas y retourner. Hein. Moi, j'ai ma cravate Conforama, elle a été accrochée pendant 10 ans à l'atelier pour me rappeler que si je ne bossais pas bien, après, il fallait avoir un boulot alimentaire à côté. Et quand on fait un boulot alimentaire à côté, c'est du temps en moins de création et c'est du cerveau pris à autre chose. Et aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que mon cerveau, il est disponible pour ma création.
Pour ton boulot. Ouais.
Et réfléchir à la manière de montrer, promouvoir et vendre mon travail, c'est aussi de la création. Et ça, c'est un truc qu'on oublie aussi beaucoup. Mais dans l'histoire de l'art, les artistes ont été beaucoup à l'initiative de modèles économiques, de façon de promouvoir leur travail. Chardin, c'est celui qui a inventé la signature d'un tableau. presque l'idée de la marque. Christo, il avait inventé un modèle pour pouvoir financer lui-même ses œuvres et avoir une autonomie. Donc en fait, ce qui est important, c'est qu'un artiste, il faut qu'il réfléchisse à son travail, mais il faut qu'il réfléchisse à l'économie de son travail et qu'est-ce qui va lui donner la plus grande liberté pour que son travail soit fait dans les meilleures conditions possibles.
Eh bien, Olivier, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les travaux d'Olivier sur son site oliviermasmonteil.com ainsi que sur son Instagram @oliviermasmonteil. Merci beaucoup au Centre Pompidou qui nous accueille et nous soutient pour cette émission sans titre. Merci à Cyril et son équipe à la régie. Vous pouvez retrouver toutes les informations de Sans Titre sur Instagram @sanstitre.cast. Merci beaucoup à Olivier Schloberg pour le générique. Bisous.